J'aime beaucoup les psaumes. Plusieurs savent ici que les psaumes sont pour moi expriment des émotions, des sentiments qu'on vit et je suis content cet été qu'on puisse les étudier ensemble. Ils relatent beaucoup ce qu'on vit. Est-ce qu'il est arrivé pour vous de penser que pourquoi les non-chrétiens réussissent, mais pas moi? Est-ce qu'il est arrivé que de questionner si Dieu, est-ce qu'il est vraiment bon ou vraiment juste? Pourquoi ceux qui renient Dieu prospèrent? Pourquoi qu'il y a des gens qui semblent être heureux, mais qui ne suivent pas Dieu? Est-ce que ça arrive quelques-uns parmi vous? Vous n'avez pas oublié de lever la main? Mais c'est des questions qu'il me semble qu'il y a encore d'actualité, pas vrai? C'est des questions qui mettent en lumière le doute. Ça s'installe. Des fois, on veut nier ces questions qu'on n'y pense pas vraiment, mais entre vous et moi, ça arrive par moments. Malheureusement, involontairement, on re-questionne si Dieu est bon. C'est ce que adresse le psaume qu'on va étudier ce matin, le psaume 73. Un psaume que j'aime beaucoup, dans un temps de ma vie très difficile. C'était un des psaumes que je lisais beaucoup. Le psalmiste, dans le psaume 73, écrit une expérience confusante, une expérience de doute, de questionnement, de justice. Et il ouvre son cœur. Et par le Saint-Esprit, il va nous démontrer comment gérer ces sentiments, ces doutes, ce questionnement. Donc, Asaph, qui est l'auteur du psaume 73, a écrit plusieurs psaumes. Le psaume 50, dans le deuxième livre des psaumes, sur 5. Et le psaume 73 est le début d'une plusieurs séries de psaumes dans le troisième livre de psaumes. Et le troisième livre de psaumes caractérise une partie. Il y a quelqu'un qui a oublié de fermer son téléphone. Ne soyez pas distrait. Le troisième livre de psaumes catégorise une partie de psaumes qui illustre des conflits. Ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien chez les personnes, ça ne va pas bien dans la communauté israélite. Donc, Asaph, ça c'est le premier. Puis tous les autres qui suivent, la plupart sont très, amènent des crises, soit chez les personnes ou soit dans la communauté. Donc, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble le psaume 73. Mais juste avant qu'on lise le psaume 73, je vais juste lire le premier verset, parce que le premier verset est important pour le reste. Donc je lis pour vous le premier verset, psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Maintenant, Asaph, il commence comme ça. Je vous ai dit un peu de quoi le psaume allait parler, pas vrai? Mais il veut statuer une chose avant de dire son expérience. Dieu est bon pour Israël. Dieu est bon pour ceux qui ont le cœur pur. Il veut pas qu'on a de doute. Il ne veut pas qu'on réquestionne cela, malgré qu'est-ce qu'il va suivre par la suite. Il fait un statement. Il fait une déclaration. Merci beaucoup. Il fait une déclaration. Il veut préciser sans faire aucune nuance dans son message que Dieu est bon. Ça me fait rappeler un peu à qu'est-ce que Jésus a dit dans Luc 18 au chef. Il a dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Donc, peut-être en lisant les premières parties du psaume, vous allez peut-être comprendre que Asaph pense que Dieu n'est pas si bon que ça. Mais il ne veut pas faire de doute. Donc, je ne voudrais pas, vous non plus, que vous tombiez dedans. Donc, Asaph précise cela. Relisons encore tout le psaume, en sachant qu'il y a une introduction, que Dieu est bon, malgré tout ce qu'on puisse comprendre. Je recommence. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Je lis dans la version Colombe, en passant. Okay? Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il en a fallu de rien que mes pas ne glissent, car je jalousais les insensés, en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et leur corps est replet. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés avec les humains. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est un vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Leur imagination de cœur dépasse la mesure. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux. Et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple en arrive là. On avale l'eau abondamment. Et l'on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Excusez-moi. Y a-t-il même de la connaissance chez le Très-Haut? Ainsi sont les méchants. Toujours tranquilles, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je vais m'exprimer comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Ce fut pénible à mes yeux. Jusque j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les précipices dans la tourmente. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation? Ils sont à bout, achevés par l'épouvante. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Lorsque mon cœur s'aigrissait, je me sentais percé dans les reins. J'étais stupide et sans connaissance. Avec toi, j'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Ta main saisit la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Tu me recevras dans ta gloire. Qui d'autre ai-je au ciel en dehors de toi? Je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici que ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Quel beau texte. Asaph écrit ce texte-là. Quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Ou allaient tomber, ça dépend des versions que vous avez. Il s'en valut de peu. Donc on peut comprendre, son Asaph, il n'est pas tombé, mais presque tombé. OK? Donc certains commentaires disent qu'Asaph avait péché, mais pas trop grave. Le texte est clair. Il fallait un peu. Donc, il n'était pas loin, là. Il était tenté. Il allait tomber. Maintenant, en voyant cela, Asaph, il ne faut pas oublier qu'il y a un chantre nommé par David. Mais ces psaumes, la plupart de ces psaumes sont... Il y a une crise. Pourquoi tu m'as oublié? Et là, il explique vraiment la profondeur de son cœur. Il veut emmener le peuple à adorer. C'est son rôle comme chantre. Mais il voit que les méchants sont en paix. Comment aider des personnes à adorer Dieu quand que les méchants, ceux qui ne font pas ce que Dieu demande, vont bien? Ils meurent en paix. Ils sont un reflet. Ça veut dire qu'ils ont de l'embonpoint. Ça veut dire qu'ils sont en santé, que tout va bien. C'est dur, non? Je comprends, Asaph, pas vous? Ça ne ressemble pas aux paroles de Job, aux amis de Job. Jérémie a dit ça aussi dans Jérémie 12. Habacuc, le premier chapitre d'Habacuc, ramène cela aussi. Donc, ce n'est pas seulement Asaph, là. Il y a plusieurs. Élie, Jean-Baptiste, il y a plusieurs, là, dans la parole de Dieu, qu'on retrouve, qui questionnent. Il y a où la délivrance? Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau sous le soleil. Ça fait un peu écho et contraire au psaume 72, verset 7, que Salomon écrit pour dire que les justes verront. C'est comme une contradiction, ça semble une contradiction. Ceux qui font le bien souffrent et ont de la difficulté dans la vie. Donc, je ne serais pas surpris si quelqu'un a une telle pensée, pas vrai? C'est humain, c'est normal. Mais Asaph avoue qu'il a failli tomber dans ce mensonge. Ce mensonge qui, je pense, l'amènerait involontairement à croire que Dieu est injuste, que Dieu est pas bon. Je pense que Jésus a vécu la même chose. Les pharisiens avaient une autre vision de qui était le Messie. Les disciples ne comprenaient pas tellement que le Christ devait mourir et ressusciter. Et après avoir confessé que Jésus était le Christ, Dieu lui-même venu pour sauver, Pierre n'a pas compris cela. Quand tellement que Jésus lui dit, « Arrière de moi, Satan, tu m'en es en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, notre vision qu'on a de Dieu n'est pas les pensées de Dieu. Notre vision, notre compréhension n'est pas celle de l'Éternel. Notre conception de la vie même non plus. Même si nous avons toute la parole de Dieu, tout le conseil de Dieu, des fois on oublie d'aller voir qu'est-ce que Dieu dit. Elle est différente du monde. Et Asaph, le reste, à partir du verset 4, il va nous démontrer en profondeur ce qu'il voit, le conflit qu'il vit, un semblant d'injustice. On lit au verset 4. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort. Hein, qui meurt en paix. Leur corps est un reflet, ils ont un bon point. Ils n'ont aucune part de la peine des hommes. Ils sont insensibles à ce qui se passe. Ils ne vivent pas le tracas. Ils ne vivent pas les problèmes. Ils sont à part. Leur figure débordante de graisse. Tu sais, comme quelqu'un qui est bien nanti, là. Tu sais, en Haïti, quand je suis allé, parfois en Haïti, on m'avait dit, mon oncle m'avait dit, quand tu vois les gens qui sont plus gros, parce que c'est eux qui sont les plus riches. OK? Donc, parce que ça veut dire qu'ils ne marchent pas. Ils ne marchent pas 3 km pour aller à l'école, ils ne marchent pas 3 et ils sont en voiture. C'est similaire ici. Là, okay? Là aujourd'hui, on peut être gras et prendre le bus et pas marcher. Tu sais? Donc, c'est différent. Mais comprends le contexte, il n'y avait pas à marcher. Donc, on mange le matin et on perd des calories en marchant 3 km le matin et 3 km le jour. Donc, tu sais, on fait de l'exercice. Maintenant, on en fait moins. Donc, ceux qui étaient gras, ils avaient des serviteurs, ils ne bougeaient pas. Il faut comprendre, il faut réactiver sur le contexte qu'on est aujourd'hui. Okay? Ce n'est pas parce que vous me voyez gras que je suis... mais revenons. Okay? Donc, les méchants étaient orgueilleux. L'orgueil et la violence étaient leurs vêtements. C'était commun pour eux. C'était leur style de vie. Ils n'avaient aucune gêne de partager tous les problèmes, tous leurs plans mauvais. Aucun problème, là. Leur dessein, leur cupidité, sans problème. Ils se prenaient comme des dieux. Ça vous dit quelque chose, là? Genèse 3, qu'est-ce que le serpent a dit à Ève? Hein? C'est pas nouveau, hein? Et même, il n'y avait aucun... Ils s'en foutaient de Dieu. Ils ne pensaient pas que Dieu allait même les reprendre. Ils se faisaient comme Dieu. Il n'y avait pas d'amour pour leur prochain. Ça se peut que dans votre version, je ne sais pas à Colombe, il y a des différentes phrases. Mais je peux vous dire que ce que Asaph veut mentionner, c'est que les méchants étaient insensibles et arrogants envers les hommes, mais aussi envers Dieu aussi. Ils meurent sans souci. Et c'est ça qui énerve Asaph. Il y a de l'injustice devant lui. Il voit. Et même que ça se peut que les méchants incitent les autres à faire pareil. Quel job difficile à un chantre qui veut emmener à adorer le peuple, qui veut que le peuple adore Dieu et qu'il soit obéissant aux règles de Dieu quand que les méchants prospèrent. J'aime aussi les proverbes. Et ça m'a fait penser à Proverbe 1, quand le Père parle au Fils. Je voulais 10 à 14, un tout petit court récit. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'il vient à nous, dressons des embûches. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain dans son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, tout entier, comme ceux qui descendent à la fosse. Nous trouvons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons des butins, nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Waouh, ça c'est les méchants. Hazard pourrait facilement tomber dans la critique contre Dieu en voyant cela, en étant témoin de cela, en vivant cela. C'est comme s'il pourrait traiter de Dieu de mauvais gestionnaire de sa création, d'être irrité, d'être en colère. Il devient avoir un conflit interne. Il voit les méchants semblent avoir une meilleure vie que les gens de bien. C'est quelque chose qu'on vit. Mais au verset 13, on voit un genre de réflexion d'Azaph. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Azaph se questionne dans sa persévérance à faire le bien, de suivre les préceptes de la Torah. Les méchants ne le font pas, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et peut-être, il ne dit pas dans le texte, mais peut-être, il pense, ils ont même ce que moi je veux. L'argent, le confort, la popularité, etc. Je m'efforce à rester sur le bon chemin, mais eux, ils se laissent aller sur leur désir charnel, sans conséquence. C'est pas ce que dire, je mérite le repos, mais pas les méchants. En plus, moi, je souffre, matin et soir. Je souffre continuellement. Il y a certaines personnes qui pensent que Azaph est en dépression. Moi, je dirais que Azaph souffre, et ça l'empêche de voir clair. Il voit trouble à cause de sa souffrance. Ça vous est arrivé, ça? Que votre souffrance vous fait voir des choses, des situations vraies, mais pas claires? Je pense que vous comprenez un peu qu'est-ce que Azaph vit. Mais le verset 15 nous laisse croire qu'Azaph est tenté d'agir comme les méchants. Je peux suivre si je fais comme eux, si je dis comme eux. Mais il ne peut pas. C'est contre sa conscience. C'est contre l'éducation qu'il a reçue. Mais surtout, c'est contre son identité comme enfant de Dieu et serviteur du Dieu d'Israël. Le fait qu'il appartient à Dieu, le fait qu'il veut suivre Dieu, le fait qu'il a donné sa vie à Dieu, il ne peut pas le faire. Il trahirait sa propre, son rôle. Il trahirait où ce que Dieu l'a mis pour le servir. L'Esprit du Seigneur témoigne en lui. C'est pareil pour nous. L'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas ce que Paul a dit. Et cet esprit, lorsqu'il est venu vers nous, il est venu nous libérer de notre esclavage du péché. Il nous rappelle notre identité en Jésus le Christ et notre espérance dans sa gloire. Et c'est pour ça que j'aime la suite du passage. Il y a un tournant, il y a un renversement dans sa réflexion. Parce que verset 16, ça dit qu'il réfléchit. J'ai donc réfléchi pour comprendre cela. Et ce fut pénible à ses yeux. Il prend le temps d'y réfléchir et c'est difficile. Le verset 17. Si vous avez une Bible pour souligner, si vous avez un marqueur ou un crayon à mine, j'aimerais vous encourager de souligner le verset 17. Pour moi, c'est le verset tournant, le plus important. S'il y a une chose que j'aimerais que vous vous rappeliez en sortant d'ici aujourd'hui, que vous partagez à tous, c'est bien le verset 17. Jusqu'à ce que j'arrive au sanctuaire de Dieu, alors j'ai compris le sort final des méchants. Oui, tu les places sur les voies glissantes, tu les précipites dans la tourmente. Comment, en un instant, voilà, en pleine désolation, ils sont à bout, achevés par l'épouvante, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu les repousses, leur image. Ici, Azaph nous démontre son cœur, sa réflexion. Réfléchir, c'était lourd. Mais le mot-clé, jusqu'à. Jusqu'à. Donc, malgré les circonstances, sa perception amène à douter jusqu'à. jusqu'à qui va dans les sanctuaires de Dieu. Ce qu'en hébreu, les lieux saints, dans la présence de Dieu. Où ce que sont les manuscrits, où ce qui sont la louange, l'adoration à Dieu. Les Juifs allaient au temple, dans les lieux saints, en présence de Dieu, pour l'adorer, pour le louer, pour apprendre de lui, pour se rappeler des promesses. On ne sait pas quel livre qu'il a consulté, mais il ne fuit pas vers les méchants ou vers des philosophes. Il va aux sources. Il retourne aux sources. Et les sources, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Qui est Dieu, la personne de Dieu. Il recherche la vérité. Et la vérité se trouve à une seule place, en Dieu lui-même, en sa parole. En l'adorant, en le louant, en consultant sa parole. Il prend conscience que même s'il n'est pas témoin de ce qui arrive aux méchants, il se rappelle de leur sort final. Il se rappelle que Dieu est bon et juste. Leurs voix, les voix des méchants qui paraissent confortables et qui se réjouissent dans leur richesse, va leur amener vers une perdition éternelle. C'est un peu similaire à l'histoire que Jésus raconte de Lazare et le riche. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Luc 16, les deux morts, il y avait un riche et il y avait Lazare. Les deux sont morts, les deux se retrouvent. Et puis, Lazare fut porté par les anges au sein d'Abraham et le riche, il était où? Il souffrait dans les flammes. Puis Abraham dit aux riches qui souffrent, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. Non, je ne pense pas qu'Abraham a été sarcastique comme moi que j'aurais pu l'être. Mais toi, tu souffres maintenant. Mais non, je ne pense pas. Vraisemblablement, on sait une chose. Lazare a fait confiance à Dieu, mais pas le riche. Lazare s'est confié à la parole de Dieu. Quant au riche, il semble même minimiser la parole de Dieu parce que Abraham dit qu'ils écoutent la loi et les prophètes. Puis il dit non, c'est mieux un mort qui revient à la vie. Abraham répond, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. C'est la parole de Dieu qui convainc. C'est la parole de Dieu qui restaure l'âme. C'est la parole de Dieu qui nous sauve. Elle nous amène à la repentance. La parole de Dieu nous garde aussi dans la vérité. Il nous prévient de tomber dans le mensonge. Il nous prévient de tomber dans le doute quand ça persiste. Elle nous corrige, elle nous console. Alors, lorsque vient le doute, allons à la présence de Dieu comme Asaph. Lorsque vient des questionnements, allons dans la parole de Dieu comme Asaph. Pas sur YouTube, pas sur Google, dans la parole de Dieu. Nous ne restons pas dans nos perceptions. Qui peut avoir quelques parcelles de vérité, mais tachées de nos péchés? Mais allons à la vérité, ce que Dieu dit, ce que Dieu proclame. À tout coup, quand on va à la présence de Dieu, cela va renouveler notre confiance en Dieu, notre confiance sur notre Sauveur et notre Seigneur. Cela va nous amener à nous repentir de nos péchés, si nous avons failli, devant un Dieu saint, pur et bon. Allons à la présence de Dieu. C'est ce que Asaph fait. Asaph réalise sa tendance, son comportement. Il s'humilie, rend grâce à Dieu et se rappelle de son espérance. Et c'est pour ça que les versets 21 à 28, la dernière partie, c'est autre chose. On voit le changement. Lorsque mon cœur s'aigrissait, que dit verset 21, et que je me sentais percé dans les reins, j'étais stupide et sans connaissance avec toi. J'étais comme les bêtes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduis par ton conseil. Tu me recevras dans la gloire. Qui d'autre ai-je au ciel, en dehors de toi? On dirait les paroles de Pierre, ça. Je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ma chair et mon cœur peuvent défaillir. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et ma part. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont fidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans l'Éternel.
afin de raconter toutes tes œuvres.
Avoir les yeux sur la parole de Dieu, avoir les yeux sur la présence de Dieu, aller de rechercher cela, la méditer aura un effet de corriger notre perception. C'est comme si j'avais des lunettes, comme si je n'avais pas de lunettes, et que je reste ici devant vous, je vais commencer à avoir trouble, ou bien avoir une migraine, un ou l'autre. La parole de Dieu, quand on va devant Dieu, ça vient corriger. Malheureusement, ces lunettes sont imparfaites. Donc, ce n'est pas pareil comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est parfaite. Elle nous fait voir la vérité. On peut ne pas l'aimer parce qu'elle nous révèle notre cœur, mais c'est quand même la vérité.
Elle corrige notre perception de nous-mêmes, de la situation où ce qu'on est. Dans le cas d'Asaph, il s'attendait de voir les messieurs souffrir. Maintenant, devant lui, peut-être dire, ah, il voulait que Dieu gère le monde comme lui, il l'entend. Est-ce que Asaph est parfait? Est-ce que Asaph est sans péché? Est-ce qu'il contrôle? Vous vous rappelez la réponse de Dieu à Job? La vérité, c'est que Dieu est plus grand, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Il y a son temps. Asaph prenait son espérance en ce qu'il vivait, en ce qu'il voyait. Mais quand il met les yeux dans la parole de Dieu, il voit son espérance en Dieu lui-même. Dieu agit dans son esprit. C'est vrai qu'il ne connaît pas la pensée de Dieu. C'est vrai qu'il ne peut pas expliquer pourquoi les méchants ne souffrent pas. Ils n'ont pas leurs conséquences maintenant. Il ne peut pas expliquer pourquoi que les justes souffrent aussi. C'est pour ça qu'il dit, j'étais stupide, sans connaissance. Ce n'est pas que Asaph n'a pas de connaissance, mais sa perception est limitée et tachée par le péché. Il ne peut expliquer. Mais il faut qu'il retourne tout le temps à la vérité, à ce que Dieu proclame. La vérité rectifie. La vérité, c'est que les méchants font quoi? Un jour ou l'autre, faire face à Dieu. La vérité, c'est que les méchants vont avoir leur salaire. Même quand, dans un temps de doute, de questionnement, d'évaluation que Dieu, est-ce qu'il est bon vraiment? L'Éternel, comme dit Asaph au verset 23, l'Éternel ne va pas le laisser. L'Éternel est toujours là. Et il a fait quoi? Il a pris Asaph par la main droite, comme un parent qui prend un enfant qui est tombé. Il le lève. Ça me fait rappeler au Proverbe 24:16. Le juste tombe 7 fois et il se relève. Contrairement au méchant qui reste dans la fosse. Dieu l'a gardé par son conseil, par sa parole et renouvelle son espérance de la vie éternelle, la gloire avec son maître. Et le psalmiste, il se rappelle, parce qu'il est dans la présence de Dieu, il se rappelle des promesses. Il se rappelle que Dieu est avec lui. De ne pas tomber dans la comparaison ou dans la cupidité ou de rechercher les conforts. Il dit non, maintenant, mon espérance n'est pas ici-bas, c'est en toi, Dieu. Notre vie nouvelle, quand on vient à Christ, commence ici-bas. Mais elle ne se finit pas ici. Elle va jusqu'à la vie éternelle, à la gloire avec notre Seigneur et Sauveur Jésus. Comme Lazare dans Luc 16, nous serons consolés de nos souffrances. J'aime beaucoup 1 Pierre 4, dans le contexte que c'est difficile, et Pierre écrit une lettre dans le temps de souffrance, de persécution, et Pierre fait une distinction de la souffrance, quand on souffre pour Christ ou quand on souffre pour nos péchés. Verset 14, il dit, « Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou s'ingérant des affaires d'autrui, donc de son péché. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte que plutôt qu'il glorifie Dieu à cause de son nom. Comme Christ a souffert, soyons disposés à souffrir aussi ici-bas pour un peu de temps. Et nous vivrons dans la gloire avec Christ, avec nos souffrances. Et là, Asaph, au Père, il est dans la présence là, il apprend là, il se rappelle les promesses, sa confiance en Dieu. Comme on a chanté tantôt là, il est vivant notre Dieu. Comme on a célébré le repas du Seigneur, on se rappelle ce qu'il a fait pour nous, de l'espérance qu'on a en lui, qui est bon, qui a envoyé Jésus mourir pour nous à la croix, pour que nous ayons la vie éternelle, malgré que le péché en nous nous pousse à croire qu'on peut être comme Dieu. Que notre espérance est dans les choses matérielles, avoir une famille, avoir des amis, avoir un travail.
Et j'aime, c'est toutes des mensonges. Et Asaph, il est conscient de son état. Au verset 26,
il dit, même si mon corps dépérissait, par l'usure, comme une sœur aujourd'hui, ce matin m'a bien dit, mon corps est vieilli. Hein. Donc, mon corps vieillit à cause du péché. Donc, ça peut être par l'usure, ça peut être aussi par la maladie, par des abus, X, par l'âge, Dieu est là avec moi. Ça peut être mon cœur, donc ma réflexion, mes pensées, les mensonges qui reviennent. Ça peut être par des affections malsaines qu'on a et qu'on combat super fort, qui risquent de revenir. Malgré cela, malgré les conséquences, Dieu sera toujours avec lui. Alors on peut se dire la même chose aujourd'hui. Dieu sera la fondation de ce qu'il veut se rappeler. Dieu sera le refuge, la protection, la muraille. Il veut aller derrière Dieu comme protection contre lui-même et contre les ennemis, contre le monde. Dieu est son héritage, sa part, son espérance. Et ceux qui refusent Dieu comme refuge sont livrés à eux-mêmes. Ils payeront avec leurs désirs. Leur héritage sera la perdition éternelle. Et quand on a commencé l'épître aux Romains, je ne pense pas qu'il y ait un texte aussi clair que Romains 1 qui le définit. Je vais juste vous le relire, qu'est-ce que le passage que Richard avait prêché là, dans Romains 1. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise de cœur, en sorte qu'ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, en recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils méritaient, leur égarement. Comme ils n'ont pas souci de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, en étant rempli de toute espèce de méchanceté, de cupidité, de malice, et ainsi de suite. Mais Asaph, c'est clair, leur fait incertaine. Mais Asaph reconnaît que son bonheur n'est pas dans les choses matérielles, n'est pas dans le plaisir, le confort. Il reconnaît que son bonheur est un bonheur qui n'est pas temporel, un bonheur qui ne va pas partir, un bonheur qui va rester. Son bonheur, c'est s'approcher de Dieu. C'est ça qui est son bien, en adoration, en louange, avec des actions de grâce. Il peut aller au pied de Dieu. Et nous trouvons le bonheur, même dans les difficultés. C'est ça, notre bonheur, être réconcilié avec Dieu. Et nous pourrions dire, comme Paul, dans Romains 8, juste pour nous rappeler qu'est-ce que Richard avait prêché il y a 2 semaines, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Et j'aime verset 38-39, c'est un de mes versets préférés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Waouh! Je suis sûr qu'Asaph dirait Amen. Asaph a failli tomber, mais il s'est tourné vers Dieu, vers la présence de Dieu. Il a décidé de faire confiance à son Seigneur comme son défenseur et comme son protecteur. Il a décidé de ne pas croire à ce qu'il voyait dans sa perception. Il a fait un choix clair. Ça ne dit pas que c'est facile. On a vu que c'était un défi, c'était pénible. Il a fait un choix jusqu'à qu'il va au sanctuaire de Dieu. Cette confiance va lui donner une opportunité de partager à tous comment Dieu est bon et juste. Comment, qu'est-ce qu'il a réappris? C'est pas qu'il ne savait pas, c'était un chantre. Il va pouvoir partager et écrire ce beau psaume pour nous. Il sera un modèle de foi, comme les témoins dans Hébreux 11, qu'ils n'ont pas vu leur récompense. mais qui vont la voir avec la gloire en Christ. En méditant la parole de Dieu, Asaph a été restauré par la vérité. Ses yeux se sont tournés vers Dieu, son maître, au lieu de la voix des méchants. Il s'est rappelé leur fin fatale. Il s'est rappelé son espoir dans la gloire avec Dieu. Il a accepté sa limite de ne pas tout comprendre et de ne pas croire ce qu'il voit. Il est conscient de sa faiblesse humaine. Il se range derrière son maître pour sa protection et pour son bonheur. Il raconte les merveilles de ce qu'il a appris. Donc, Asaph fait plusieurs choses pour contrer au doute qui s'installe. Mais j'aimerais vous encourager d'aller au sanctuaire de Dieu. Quand Asaph est sorti du sanctuaire de Dieu, il est affermi dans sa foi, par sa parole, par sa présence. Et il partage de ce que Dieu a fait en lui. Il lui rend gloire. Il souffre encore, hein? Chaque matin. Il souffre encore. En faisant comme Asaph, dans un temps de doute, d'incompréhension, de questionnement, allons auprès de Dieu avec humilité. Rappelons-nous de l'espérance en Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur. Reconnaissons que nous ne sommes que poussière. Nous sommes limités dans nos compréhensions. Faisons-le avec confiance et soyons repentants. Partageons les merveilles de ce que Dieu fait dans nos vies. Comment Dieu est bon. Il offre le salut à ceux qui se repentent. Car Dieu est bon, même quand le doute s'installe dans nos pensées. Donc, allons au sanctuaire de Dieu. Apportons nos doutes, nos questionnements auprès de la croix. Amen.